Je plonge au bon moment. Je ressors au bon moment. J'évite la vague qui approche. Au contraire, je m'en sers. Je me lance. J'ai nagé, j'ai volé. Toi, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur.
Bonjour, vous écoutez Les Parlers de l'eau, une émission radiophonique de l'École de la nature et du paysage de Blois. Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau potable, de la diffusion, de la pollution diffuse des cours d'eau, de l'évolution des cycles de l'eau du fait du changement climatique, de l'évolution des compétences des collectivités locales, notamment avec le transfert de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, mais aussi l'évolution de la gestion du petit cycle de l'eau. Pendant ce temps, le rapport à l'eau quotidienne change chez les citoyens. De plus en plus de riverains et de touristes cherchent un rapport direct à l'eau et à la fraîcheur, notamment du fait d'été de plus en plus chaud et d'un changement des pratiques touristiques depuis la crise du Covid. L'accès à l'eau est donc devenu un enjeu croissant pour les collectivités. Et c'est en direct du Comice agricole de Blois-Vienne que nous revenons ici avec des étudiants de 4e année de l'École de la nature et du paysage sur un atelier pédagogique qui s'est situé toute la semaine pour soulever l'état actuel des parlers de l'eau et questionner son devenir. Comment parle-t-on localement des eaux dans un pays irrigué par la nappe souterraine de Beauce et par les mouvements de la Loire, si touristiques ? Comment parle-t-on de l'état de l'eau, de la valeur de l'eau, des couleurs de l'eau, du caractère de l'eau? Comment parle-t-on des usages que l'on en a? C'est à travers les langages, les langues, les discours, les mots, mais aussi les silences que nous avons travaillé. Et je laisse tout de suite la parole aux étudiants qui ont participé à cet atelier.
D'après les mots d'Isabelle Darocha, un château dit d'eau. Je suis devenu le phare de vos campagnes, la tête bien pleine, au plus près des nuages, 16 milles au-dessus de vos champs, villes et villages. Nos fûts plantés dans la terre de vos collines, sentir le vent autour de ma tête, ça m'anime. Souvent, je me prends pour un arbre solitaire dont les racines cherchent la vie de cette terre. Le plus grand nombre ne me voit plus et me considère tel un objet déchu. Qu'importe ma structure, chanterelle, sablier ou champignon, à travers un réseau dont je ne suis qu'un humble maillon. Et depuis plus d'un siècle, je travaille du chapeau pour vous abreuver en ondes fraîches. D'après les mots d'Isabelle Darocha, l'eau. Toi, l'eau, en lac, dans un verre ou en ruisseau, je te dédie ces mots. Eau qui nous fait boire, eau qui alimente la Loire, eau qui tombe de là-haut. Eau, tu es notre héros. Toi, l'eau, tu es sacrée. Il ne faut pas te gâcher. Toi, l'eau qui permet la vie. Toi, l'eau, nous te disons merci. Au lavoir d'Isabelle Darocha. Les pierres du lavoir gardent le silence. Moussues, usées, le dos rond, fidèles comme de vieilles servantes, elles restent muettes sur le dessous des linges, le secret des corps, les bavardages anciens, les pleurs et les rires des lavandières. Les flots rapides croient emporter toutes les histoires, ce ne sont que des poussières, bribes enfantines. La mémoire reste gravée au cœur de la roche.
Donc on vient d'écouter le travail de Luna. Et maintenant, nous allons ensemble écouter le travail de Nino, mais je laisse la parole à Nino qui va un petit peu présenter ce qu'il a fait.
Merci Louis. Alors le but de ce travail, c'était pas d'être exhaustif, mais seulement de prendre des bribes des entretiens qu'on a eus. Et le but, c'était un peu de montrer que le sujet de l'eau puisse permettre un peu de s'égarer. Et on peut ouvrir plein de sujets avec le sujet de l'eau. Donc je vous laisse écouter ce travail.
Je cherche Labou avec leurs habitants, les habitants de Labou.
C'est un écosystème dans lequel on doit. C'est un écosystème dans lequel on doit se considérer.
C'est un état vivant, c'est presque une bestiole hein, la Loire. Ça bouge, divers, ça gèle.
Tu vas t'occuper que de ce qui se passe chez toi sans tenir compte vraiment l'amont-l'aval. Ça n'a vraiment pas de sens.
Il y a une espèce d'appropriation de ce fleuve qui est assez phénoménal.
Les enfants n'ont pas le droit d'aller parce qu'ils vont salir. Et je me dis que sans le savoir, la personne qui demande à son enfant de ne pas marcher à tel endroit, c'est qu'elle sait qu'il y a de la boue et qu'elle sait qu'il y a un sol argileux, mais évidemment, elle ne le nomme pas comme tel.
Moi, quand on parle d'eau, moi, c'est ça que j'ai en tête. Enfin, c'est une eau un peu courante.
Si on se considère comme étant un élément du système, je pense qu'en fait, on est plus heureux quand on est bête.
On est dans un système d'interdépendance. Ça nous sort de l'isolement, ça nous sort d'une pensée individualiste et égoïste.
C'est un écosystème.
Donc maintenant, on va écouter le travail réalisé par Louis. Je vais lui passer la parole afin qu'il explique un peu lui aussi son travail.
Donc merci Nino. Donc moi, mon travail, c'est surtout là, l'enregistrement, c'est surtout un retour un petit peu de ce que j'avais compris de cette semaine séminaire autour des parlers de l'eau. Et donc voilà, je vous laisse un peu écouter. Ça peut peut-être paraître un peu décousu, mais c'est vraiment quelque chose de spontané que j'ai voulu laisser comme trace par ce retour direct après ce travail. Je vous laisse écouter l'enregistrement. De ce que j'ai compris en fait du territoire des pays, du pays des châteaux, c'est que vraiment l'eau est une considérée beaucoup, du coup par les acteurs qu'on a rencontrés comme une ressource où il y a beaucoup de conflits dessus, beaucoup de tabous. Et c'était assez intéressant de voir ça. Je pensais pas que c'était comme ça et que ça posait autant de problèmes et que ça posait autant de questions sur ce territoire. Mais c'est vrai que lors de nos entretiens, finalement, on a eu une question beaucoup plus tournée sur l'avenir et comment vous voyez, les acteurs qu'on a pu interroger voyaient l'avenir de ce territoire. Donc il y avait une question... C'était une question un peu difficile, mais il y a quand même eu des réponses assez intéressantes. Je pense que la première chose qui est ressortie, c'est l'inquiétude face à l'avenir, surtout par rapport à la question de la qualité de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, y a une qualité qui se dégrade un peu partout, et certains sites, certains forages, la qualité a tellement baissé... Notamment ces dernières années, qu'aujourd'hui, elle dépasse les seuils limites acceptables pour que l'eau soit encore considérée comme potable. Donc il y a quand même beaucoup cette inquiétude-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde, beaucoup ont quand même un espoir pour l'avenir. C'est la question de travailler ensemble, de prendre en compte que enfin les autres, l'ensemble des acteurs aient un travail commun, la prise en compte de ce vraiment de ce patrimoine commun qu'est l'eau, qui pourrait faire un peu bouger les choses avec vraiment plus de discussions et une vision commune sur sur l'eau ou sur la ressource. Ce qui est ressorti aussi de ces entretiens, c'est quand même qu'aujourd'hui, la communication, elle est compliquée encore, notamment à cause de conflits entre certains acteurs du territoire. Et il y a beaucoup de tabous, enfin, il y a des mots qu'on ne peut pas employer et qui posent problème. Mais en tout cas, notamment... sur les questions de l'agriculture, il y a la vision de la filière qui est assez intéressante et qui permet d'ouvrir le débat et d'avancer sur une vision d'avenir sur le territoire. Donc je pense que ça, c'est peut-être ce point-là qui doit être travaillé, en fait, la filière agricole. La structuration de cette filière pour travailler aussi sur une vision globale, une vision commune et peut-être avoir de meilleurs résultats et comme c'est sur du long terme, la question de l'eau et de l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc peut-être que sur le long terme... le pays des châteaux arrivera à trouver des solutions ou du coup arrivera à faire changer ces courbes qui sont pour l'instant pas très prometteuses. Mais voilà, c'était assez intéressant de voir ça avec ces acteurs du territoire et il y a encore vachement d'espoir et de choses à faire puisque rien n'est perdu. Donc voilà. Je crois que c'est moi. Donc voilà, c'était un petit peu un retour sur cet enregistrement donc qui questionne un peu sur les questions de la qualité et de la ressource en eau sur le territoire et les potentielles évolutions et en fait comment les acteurs envisagent un peu l'avenir, mais ça reste encore relativement flou. Mais voilà, je laisse la parole maintenant à Léon pour nous présenter un petit peu son enregistrement. Je t'en prie.
Alors ça va pas être un enregistrement, ça va être quelque chose en live quoi. Je voulais m'arrêter quelques instants pour réfléchir à ce que j'ai appris durant cette dernière semaine. J'ai notamment réfléchi à la finalité du métier de paysagiste et désormais, j'ai l'impression que le paysagiste modifie l'espace et les consciences. L'entretien qu'on a eu avec Nicolas Orgelet m'a beaucoup marqué, notamment parce que c'est un ancien élève de l'école, donc de l'école où on est, mais finalement, il ne finit pas paysagiste dans un bureau d'études comme nous, on peut l'expérimenter. Il est élu. Et donc, l'outil principal qu'il utilise, c'est pas l'ordinateur et la souris, c'est la parole. Et donc, en fait, il va convaincre, il va défendre des projets pour les mener à bien, les monter, les financer, pour que des projets paysagers sur le territoire apparaissent. En rapport notamment avec l'eau, car il travaille beaucoup sur l'eau, il est élu sur l'eau. Et voilà, donc c'est. Nous avons pu découvrir aussi avec différents entretiens de multiples outils, donc qu'il n'y a pas que la parole, il y a aussi le faire du lien qui est souvent revenu avec les entretiens qu'on a eus. Et voilà, donc c'est des outils que j'ai pu découvrir et que je pourrais potentiellement utiliser dans mon futur métier de paysagiste. Merci. Alors désormais, nous allons écouter la production de Margot. Donc elle a retenu des phrases manifestes issues des entretiens qui sont en lien avec les impacts sociaux de l'eau.
Il n'y a pas de ville sans eau potable. Intuitif, l'eau couvre 72% de la surface de la Terre. L'eau est vitale, c'est un besoin. Le service du cycle de l'eau est public. Contre-intuitif, l'eau n'est pas abondante. Le besoin en eau a un coût économique. Sensibiliser est une perte d'argent pour le service. L'eau paye l'eau. L'eau potable est sujet de précarité. Il ne faut pas priver le concerné de l'information. Tout le monde est concerné par l'eau. Il faut voir les personnes à l'extrême pour agir, aider les personnes les plus fragilisées. Parfois, il faut apporter l'eau là où elle est déjà présente pour améliorer l'accès à l'eau. Il faut développer une conscience de la nécessité du partage de l'eau, car l'équilibre n'est pas économique, mais social.
Voilà, on vient d'entendre l'enregistrement que Margot a fait. Alors maintenant, nous allons écouter en direct un dialogue qui a été écrit par Jeanne, où le discours technique, se mêle au discours sensible. Donc ce dialogue va être lu par Lucie et Louis.
La notion de continuité de la rivière ou continuité écologique est introduite dans l'annexe 5 de la directive cadre sur l'eau comme un élément de qualité pour la classification de l'état écologique des cours d'eau.
La notion de permanence des systèmes des veines de la Terre est présentée par le pacte des milieux de réinsertion dans les milieux hauts comme un élément de finesse et de justesse des équilibres du milieu pour ensuite se mobiliser sur les chevelus du système hydrographique à accompagner en priorité.
Pour les cours d'eau, en très bon état, la continuité de la rivière n'est pas perpétuée par des activités anthropiques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments.
Les veines de la Terre assurent des milieux propices au développement et au maintien de la vie. Ils ne doivent pas être perturbés par des inconsidérations, des milieux détournés par des intérêts économiques et qui permettent l'intégrité des chemins et des voies du vivant, des habitats du milieu haut.
La continuité écologique existe selon deux dimensions spatiales.
Les veines de la Terre inondent le monde sur deux trajectoires.
La continuité longitudinale, c'est-à-dire la circulation des espèces et le transport des sédiments de l'amont vers l'aval du cours d'eau.
Le lien ombilical qu'il maintient entre les milieux des reliefs montagneux, en creusant les vallées et les plaines, en atteignant des profondeurs immenses des mers et des océans, retournant ensuite au sommet par le cycle essentiel qui anime ces mouvements.
La continuité latérale, ou le maintien de la connexion du cours d'eau avec son lit majeur, ses annexes hydrauliques, ses berges et la ripisylve qui permettent ainsi le passage des espèces pour assurer leur cycle de vie, ainsi que l'érosion latérale et le débordement des écoulements indispensables au bon fonctionnement du cours d'eau.
Les surfaces et les profondeurs sur lesquelles les veines diffusent leur précieux charriage, par les mouvements primaires qui animent son flux, permettent les liens entre les habitants pour assurer leur présence cyclique au sein de ces écosystèmes. L'essence de ces systèmes réside en ces flux, ces connexions à la synchronisation ciselée à l'épreuve du temps.
Les trames vertes et bleues sont un outil de gestion d'aménagement du territoire visant à recréer un réseau écologique permettant à la faune et à la flore de circuler, de s'alimenter et de se reproduire.
Identifier les croisements, les relations entre les sphères de l'eau et du végétal permet d'œuvrer aux connexions du milieu, assurant aux habitants de suivre leur chemin et de participer aux interactions subtiles du milieu eau.
je me lance. J'ai nagé, j'ai volé. Toi, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur.
Et maintenant, on va écouter la proposition de Nathalie. Compilation de quelques phrases marquantes issues des entretiens. L'eau paye l'eau. Cette phrase toute simple cache une réalité bien plus complexe. C'est la facture d'eau potable qui permet l'entretien et la distribution de cette même eau. Comme un cycle. Donc pour que l'eau soit accessible à tous, il faut la payer. Mais si on la paye, elle n'est plus accessible à tous. Dans le futur, la qualité de l'eau va être un problème. On le sait tous plus ou moins. L'actualité nous l'a rappelé plusieurs fois en cette année 2025. Avec divers scandales. L'eau à boire, l'eau pour arroser les cultures, oui, mais pas n'importe laquelle. Une eau non polluée. Et il faut agir maintenant pour éviter que ce ne soit trop tard et trop complexe dans 20, 30, 40 ans. Car le temps de l'eau, qui va jusqu'aux nappes, est bien différent du temps de nos actions. On n'abandonne pas un forage. Au pays des châteaux, sous ce climat tempéré, en bord de Loire, on s'imagine peut-être qu'on est à l'abri des problèmes de quantité d'eau. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Il est parfois nécessaire de faire appel à une solidarité entre villes et villages, en cas de sécheresse, en cas de problème de qualité d'eau. Et alors, la quantité devient un problème. Et nous ne sommes pas à l'abri.
On va écouter maintenant l'anecdote mystique de Lucie.
Alors, il faut absolument que je te raconte ce qui m'est arrivé avant-hier. Parce que moi, ça m'a perturbée. Je sortais du boulot, tu sais, je vais au boulot à vélo. Mm-hmm. Et il faisait 32 degrés dehors. Ouais, non mais tu l'as senti comme moi.
Dingo.
Et en fait, j'ai fini la réunion à 23h, ce qui m'était jamais arrivé. Oh là. Donc je suis sortie, il faisait nuit alors qu'on est juin, j'avais prévu de boire des coups en terrasse, enfin comme tout le monde quoi. Et en fait, je rentre du boulot à vélo, je passe par la Loire et j'avais vu un super spot de baignade. Mm-hmm. Mais vraiment genre, tu vois, il y a une petite plage, il y a des grenouilles, mignon quoi. Et en fait, bon, je sais bien qu'on n'a pas droit, hein. C'est bon. Je sais très bien, on n'a pas besoin de me rappeler le drame de 69, les 19 enfants morts. Évidemment, c'est horrible et je comprends l'interdiction, mais il fait chaud. Mm. Et le réchauffement climatique, à cause du réchauffement climatique, va faire encore plus chaud. Donc là, j'avoue, j'ai un peu eu envie de braconner l'interdit, quoi.
Waouh.
Ouais, non, il était 23h, c'était horrible, il faisait encore hyper chaud. Je pense qu'on n'était pas descendu en dessous des 20 degrés, enfin atroce. Mm. J'avoue, je suis allée me baigner.
Oh là là, mais t'es folle.
Non mais je sais ce que tu penses de moi, voilà. Mais en fait, pour te remettre dans le contexte, je suis allée au Café Géo qui a été fait par l'Observatoire Loire en début d'année, en février de cette année 2025. Et en fait, ils ont dit, en fait, je me suis rendu compte que c'était ouvert au public, il y avait plein de gens qui se baignaient dans la Loire, mais moi je les vois jamais, parce que je reste souvent dans mon appart et je suis un peu introvertie, tout ça.
Ouais.
Mais du coup, ça m'a, je me suis un peu dit, bon, je peux m'autoriser, c'est bon. Et en fait, il y a Bruno Marmiroli qui m'a dit, enfin qui m'a dit pas personnellement, hein, qui a dit au micro, en fait, il ne s'agit pas juste de nager dans la Loire, mais de se relier au fleuve, dans un espace de méditation. Moi, ça m'a parlé. J'adore le fleuve, j'adore la Loire, tu vois, en tant que blésoise. Donc du coup, et puis moi, j'ai envie qu'on fasse comme dans l'Elbe en Allemagne, qu'on fasse un big jump. Tu vois, tous les ans, en gros, c'est des gens qui vont se réapproprier leur rivière, leur fleuve, et qui vont faire un big jump, okay. Tout le monde dans l'eau, quoi. J'ai trop envie de faire ça dans la Loire. Donc là, avec tout ce que je viens de te dire, j'étais déjà en slip dans la Loire, quoi. Donc j'y vais, je me baigne. Alors attention, hein, mon intention, c'était pas de faire de la brasse de l'autre bout à l'autre de la Loire. Hein. C'était juste tremper ses pieds jusqu'au nombril max, mais j'ai un peu peur du courant, et puis je suis pas très bonne nageuse, quoi. Et voilà, j'étais super bien, j'étais hyper apaisée, j'écoutais les grenouilles, c'était trop mignon. Je voyais les hérons qui s'envolaient, enfin...
Trop beau.
Le bonheur. Et en fait, je regardais les étoiles, tout ça, mais tu sais, comme je suis myope comme une taupe, je voyais juste des taches floues, hein, mais c'était joli quand même. Et en fait, j'entends des bruits dans l'eau, mais j'avais jamais entendu ces bruits-là. En fait, je comprends pas ce que c'était. C'était des gros clapotis, comme s'il y avait quelque chose qui rentrait, qui ressortait. Et moi, je voyais rien. Je suis myope, quoi, comme une taupe. Et je voyais des espèces de formes vaseuses, et puis après blanchâtres. Et puis, je comprenais pas ce que c'était. Et au bout d'un moment, j'avoue, j'ai commencé à paranoïer. Donc, j'ai fini ma béliade. Je suis partie, quoi. Et normal, j'ai pris peur, j'avoue. Mmh. Et le lendemain, je parle à un pote qui me dit, qui me raconte, mais tu connais pas l'histoire, le mythe du dragon de la Loire.
Quoi ?
Non mais arrête, à ce qui paraît, il y a un dragon entre la Creusie et le pont Jacques Gabriel.
Mais d'où ?
Mais je sais pas, c'est une légende du 11e siècle, mais moi je suis persuadée d'avoir vu ce dragon de la Loire, donc je te dis, moi je me baigne plus.
Et tu crois pas que c'était des gens qui se baignaient tout simplement ? Ces clapotis peut-être plutôt qu'un dragon.
J'avais pas trop pensé à ça, mais ça veut dire que je peux continuer à me baigner.
Honnêtement, je pense que c'est plutôt safe, donc vas-y, tranquille, mais vas-y. Et après cette histoire mystique proposée par Lucie, nous allons écouter la proposition de Grégory, qui tourne autour des mots importants pour les personnes qu'il a rencontrées et qui parlent de l'eau.
Quand on dit le mot eau, à quel mot on peut plutôt penser directement?
Ok. Qualité, quantité et vital.
Fluide. Pluie. Neige.
L'eau en trois mots. Barrage. Lac et rivière.
J'aurais dit une ressource. Qualité. Ça, je pense que ça vient avec ma casquette. Et puis nature.
Fluide. Vie. Et ressource.
Fluide. Ressources et vie.
J'aurais dit indispensable, fragile et magique.
Et tout de suite, nous allons écouter la proposition de Kate qui se passe autour des possibilités et des difficultés des dialogues.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est la pluralité de visions par rapport à un même sujet, l'eau. Chaque vision est cloisonnée en fonction de là où la personne évolue. Malgré cela, des occasions de partager, de parler, de réinventer, dans le but de créer un cycle d'action vertueux, est possible. Les extraits suivants en témoignent.
Dans le détail, là, dans la façon de faire, on marchait un peu sur des œufs. Il s'est parfois un peu remis en question par certains qui disaient « Oui, mais bon, c'est pas... »
Il a travaillé entre autres avec les agriculteurs classiques.
ce qui faisait qu'ils étaient, ils résistaient au changement de pratique, alors que c'est évident, les algues vertes et tout ça. Enfin, il a beaucoup, beaucoup fait d'entretien et travaillé, voilà. Et il a travaillé beaucoup sur la montée des eaux. Il y a des zones où il faut absolument reculer, et les populations ne veulent pas reculer et veulent monter des murs et réussir à faire tellement d'échanges qu'au bout d'un moment, les gens disent bah oui, en fait, la seule solution, c'est effectivement de reculer. Les digues, ça va lâcher à un moment.
On peut facilement, et les enjeux de l'eau, de quantité plutôt, assez rapidement amené à des biais un peu de moi je vais prendre ce dont j'ai besoin et je capte ce dont j'ai besoin et puis je pense pas aux petits copains quoi. Je pense pas à mes voisins voilà. Donc il y a un enjeu fort. Alors, peut-être pour reprendre un peu de hauteur par rapport aux enjeux de l'eau, déjà à se connaître, à connaître les acteurs, okay. Et puis à travailler ensemble.
En gros, on crée l'écosystème pour que ces gens s'expriment, qu'il y ait des opinions qui émergent, qu'il y ait des débats aussi, de l'interconnaissance entre tous ces gens. Et après, une fois qu'ils nous proposent un projet structuré, bon, ben derrière, on essaie de trouver des financements pour ce projet.
Les gens, en tout cas, de la fête qui ont participé, les bénévoles et tout, sont quand même partis... Enfin, moi, j'ai vu que des gens sympas. Non, mais c'est vrai.
Oui.
Bon. Ah ouais, mais
un
ouais.
Petit peu quand même. Ouais.
Et
ouais, sensibilisé et ouvert.
Et ouvert, ouais.
Parce qu'on peut être sensibilisé et puis extrémiste, hein, on peut, mais c'est pas ça. C'est ouvert à la discussion.
C'est pas que des gens tous convaincus. Il y a
non.
Le travail de formation qu'on échange entre nous est quand même efficace, quoi.
C'est vraiment la. L'éducation populaire entre nous, quoi. En échangeant, c'est super intéressant.
Oui, il y a notre banquier trésorier, là.
C'est trop drôle, c'est marrant.
Vous me faites grandir.
Et un jour, il a dit ça à la fin.
Ouais, il est à la retraite, il était...
Il a dit, mais jamais je me serais intéressé à toutes ces questions-là. Ah, vous me faites grandir. C'est rigolo, quoi.
Bah, c'est très bien.
C'est drôle, ouais. Ouais, parce que c'est vrai, ça. Parce qu'il y a des gens comme nous. Nous, on a toujours été, bah, comme vous, on a toujours été des gens très sensibilisés. Mais je trouve ça super, justement, des gens comme...
C'est génial.
C'est ça qui est super.
Évoluer en fait. Aussi
ouais.
Dans notre
oui, oui, oui. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est une évolution collective. Ouais.
Toute ma jeunesse, j'ai envie de dire, je ne suis jamais allé jouer sur un toboggan ou dans un parc pour les enfants en ville. On était, c'était Tom Sawyer, quoi. On était toujours au bord de la rivière, à faire des cabanes, faire du vélo. Bon, alors moi, je ne pêchais pas. Moi, je faisais des cabanes et je jetais des cailloux dans l'eau, quoi. Mon frère, entre temps, lui, il est devenu pêcheur. Maintenant, il est pêcheur professionnel en Corse. Donc, cette rivière l'a profondément marqué. Moi, toute mon enfance, j'ai grandi dans cette ambiance liée à la rivière. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai un rapport à l'eau qui est extrêmement personnel. Enfin, c'est une conviction, quoi. Et donc, j'ai beaucoup fait de kayak aussi, depuis jeune. Alors, c'était du kayak promenade. Quand j'ai eu mes enfants, beaucoup de kayak, bivouac, où tu vas, enfin, l'idée d'expérimenter l'eau, enfin, c'est pas juste une théorie, l'eau, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu vis au bord de l'eau, quand t'es sur l'eau, je pense profondément, il se passe quelque chose à l'intérieur énergétique qu'on comprend pas bien.
Pour Aclimagri, quand on a fait bosser la chambre d'agriculture, l'ADR et le groupe d'agriculture biologique du Loir-et-Cher, le Gablec, en fait, nous, on est convaincus qu'il faut cette approche-là, que si on fait un projet qui est qu'avec les bio, ben en fait, la progression, elle sera quasiment nulle sur le territoire, parce qu'ils sont déjà sur des pratiques vertueuses. Si on fait le projet qu'avec ceux qui ne sont pas en bio, ben du coup, oui, il y a un grand effet, une grosse marche à passer, et c'est pas sûr que ben, du coup, on trouve des gens motivés. On s'était dit, voilà, il faut vraiment mélanger et puis toucher toutes les agricultures.
Et donc, Kate, suite à cet audio, comment t'es venue en fait cette volonté de confronter la parole des acteurs ?
Eh bien, avec les différentes interviews qu'on a eues avec les différents acteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours cette volonté, enfin je me suis rendu compte qu'il y avait toujours cette volonté de dialogue. Certains avaient du mal à venir vers l'autre, ou d'autres avaient la volonté de venir vers des acteurs qui paraissaient peut-être plus réfractaires ou ou à l'opposé de leur vision de l'utilisation de l'eau. Mais en fait, tout le monde avait cette volonté de parler, mais d'autres ne venaient pas, en fait, parce que bah, soit ils se sentaient peut-être jugés, ou enfin, il y avait un malaise sur certains acteurs, en fait, bien clés.
Et donc, quand tu dis ces acteurs, est-ce que tu peux nous donner des exemples, en fait, d'acteurs que tu as rencontrés? Qui sont-ils?
Ben, par contre, par exemple, on a rencontré ben, une association, les Verts Solidaires, qui était vachement dans tout ce qui est le partage à travers les citoyens, entre les agriculteurs. Ils essayaient aussi d'intégrer les agriculteurs conventionnels, malgré le fait qu'ils étaient majoritairement bio. Mais le maître mot, c'est toujours améliorer la qualité de l'eau à travers des pratiques vertueuses, et aussi le fait d'avoir un partage équitable de l'eau pour ne pas en manquer et que tout le monde en ait à la hauteur de leurs besoins. Au niveau de tous les acteurs, donc des acteurs politiques qui travaillaient dans le fait de travailler sur des plans d'urbanisme, de gestion des eaux aussi, ils avaient à peu près le même discours, bien sûr avec un discours beaucoup plus techniciste, mais le fond était le même.
D'accord, donc en fait, malgré cette confrontation et cette pluralité de discours, il y avait quand même un point d'entente ou un point de rassemblement auquel ils pouvaient se rattacher, se retrouver.
Il y avait avec certains acteurs, le dialogue est complètement coupé, notamment au niveau par exemple, des agriculteurs conventionnels ou encore au niveau des habitants, des citoyens qui habitent dans des zones inondables et qui peuvent être complètement expropriés de leur ville. C'est un attachement à des pratiques ou à un territoire qui est difficile en fait à dénouer, et le maître mot pour justement que tout le monde sache pourquoi les choses se font en fait avec des actualités de maintenant, c'est le dialogue.
Merci Baptiste et Kate pour cet échange. Et tout de suite, on va écouter le travail de l'étudiante Camille, qui n'est pas là pour en parler. Mais on va écouter ça tout de suite.
L'eau. Quantité, qualité, nature, imperméable, abri, arbre, priorité, flore, trouble. Aménagement, aménageur, infiltration, berge, érosion, politique territoriale, priorité, consommation, privatisation, milieu, lessivage, faune, flore, l'eau, oxygénation, santé, tuyaux, poissons, ressources, gouttes, zone tampon, risque, fraîcheur, liquide, limpide, inondation, qualité, quantité, accès, navigation. L'eau. Or, valeur, déchets, financeur, bruit, loisirs, rivière, travaux, sol, privatisation, saison, gestion, lac. Agence de l'eau, biodiversité, ombre, bassin versant, barrage, anguille. Climat, source, pluie, Loire, Cisse, Cosson, Beuvron. National, régional, local, montagne. Maîtrise d'ouvrage, agriculture, pisciculture. Torrent, ruissellement, quantité, or. Structure du sol, goutte. Castor, filière, bouteille, quantité, or.
Voilà, c'était le travail de Camille. Et sans transition, nous passons au travail audio de Élodie.
j'ai un rapport à l'eau qui est extrêmement personnel. Enfin, c'est une conviction, quoi.
C'est trop drôle, c'est marrant.
Vous me faites grandir.
Oui, un jour, il a dit ça.
Ah, ouais, il est à la retraite, il était...
Il a dit, mais jamais je me serais intéressé à toutes ces questions-là. Ah, vous me faites grandir. C'est rigolo, quoi.
Bah, c'est très bien.
C'est drôle.
Oui, parce que c'est vrai, ça. Parce qu'il y a des gens comme nous. Nous, on a toujours été, bah, comme vous, on a toujours été des gens sensibilisés. Mais je trouve ça super, justement, des gens comme...
C'est une évolution collective.
L'idée d'expérimenter l'eau, enfin, c'est pas juste une théorie, l'eau c'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu vis au bord de l'eau, quand tu es sur l'eau, je pense profondément qu'il se passe quelque chose à l'intérieur énergétique qu'on comprend pas bien.
Le langage de l'eau, il passe par la connaissance et il passe par avoir un regard, je pense, assez pluriel. Il faut voir plein de dimensions, parce que c'est ce que dit l'eau, c'est un miroir, mais c'est aussi, pour bien étudier une rivière, je dis toujours, il faut sortir la tête de l'eau et regarder ce qui se passe dans son environnement extérieur.
On est parti du constat que notre eau du robinet, elle n'était pas...
Il y a une liste énorme de produits recherchés. Et si on n'en dit pas plus, on ne sait pas de quoi il s'agit, tous ces produits. Et en fait, tous ces produits, c'est ça, des herbicides.
Oui, il y a du carbone qui est stocké dans la plante, mais qui est restitué l'année même quand on la consomme, la plante. Donc c'est du stockage très très lent. Par contre, à côté de ça, ils vont faire tourner le tracteur. Ça, c'est pas du carbone qui reviendra vite dans la plante. Ils vont utiliser des engrais azotés. Là, les engrais azotés, c'est ce qui, nous, sur notre territoire, c'est ce qui explose tout. Parce que finalement, le méthane, les vaches, tout ça, on a très peu d'élevage, donc c'est pas grand-chose sur notre territoire.
Ils définissent que 69% de la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique
sur notre zone,
sur Aglopolis, c'est lié aux engrais azotés. Mm. Et la conclusion, arrêtez de manger de la viande. Moi je comprends pas. Alors il n'y a pas d'élevage, il n'y a même pas un seul élevage dans Aglopolis, enfin il y a 5 élevages de ruminants, il n'y en a pratiquement pas. Quoi.
Si on n'a pas compris l'environnement extérieur, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un environnement proche de la rivière.
Que chaque contexte est
voilà, chaque contexte c'est vraiment précis et il faut éviter de faire des copier-coller de partout et la notion de territoire est hyper importante. Et l'acceptabilité d'un lieu aussi, puis les gens, comment ils réagissent autour d'un milieu. L'accès à la rivière n'est pas le même, aussi l'accès à l'eau, tiens, l'accès à une rivière, quand tout est fermé, privé en Sologne, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les rivières. C'est beaucoup plus ouvert dans le nord du département, où il y a des prairies, où on peut facilement avoir accès à un endroit. Donc vous voyez aussi, il y a cette perception qui est vraiment multiple.
Vous avez compris ce que je voulais dire là ? Parce que là, tu trouves du pâturage avec les chevaux,
oui.
Du lien social ou une population un peu complexe, tu arrives à leur donner un peu de valeur, tu leur fais gagner des sous. Mm-hmm. La découverte de paysages insolites en zone inondable, avec des moyens hyper légers, le cheval, la charrette, et puis l'expérience, l'accès à l'eau, t'imagines la famille qui part avec la charrette et le cheval là, qui va à 4 à l'heure pendant 3 jours, c'est des vacances de leur vie, quoi. Génial.
On trouve quand même qu'on a plus de marge de manœuvre en tant que citoyen dans notre manière de manger, dans notre manière d'aller aux toilettes, enfin...
Vous parliez des toilettes sèches, c'est
ça ? Oui, nous, par exemple, on n'est pas sécu en toilettes sèches chez nous.
Okay.
Ça fait du compost pour le jardin. Mais ce n'est pas évident, hein, de faire ça. Il faut avoir un jardin, il faut tout ça. Il faut gérer. Hein,
ils savent, les agriculteurs, qu'ils ont le droit de prélever 43 millions de mètres cubes dans l'année.
Bon, il se passe quelque chose. Ces rivières, elles ont une odeur, elles ont une personnalité. Au-delà des données scientifiques qui évidemment existent, mais il y a une vraie histoire de relations humaines et de relations affectives.
C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qu'on voit quand on a besoin que l'eau soit un peu défendue. Mmh. Moi, je vois pas grand monde souvent quand il y a besoin de défendre un projet, défendre l'eau, défendre des choses comme ça, aller au charbon. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est assez facile de dire « oui, il faudrait ». Mais se confronter à l'opposition, et il ne faut pas rentrer dans l'opposition. Ça ne sert à rien, parce que c'est deux points de vue, il faut essayer de se comprendre l'un à l'autre, et un petit peu... c'est, oui, l'opposition aujourd'hui, ça ne sert à rien.
Il est urgent de faire quelque chose, quoi.
Et après, c'est vrai que ma pratique de la rivière, de par mon enfance et ma vie de tous les jours, de par mes activités nautiques dans un club de kayak, je vois l'impact, l'importance de la transmission dans ces structures-là associatives. Et j'ai l'impression que la loi, le règlement, c'est très bien, mais il faut une vraie implication humaine, quoi. Il faut se regrouper, il faut aller voir des groupes d'individus qui vont la vivre, cette rivière. Il ne faut pas rester dans la théorie.
Et bon, là, cette année, avec une incite, a été organisé un travail sur l'eau. Et l'exposition de ce travail était pendant la fête. Donc, ça ramène les parents qui ne sont pas forcément aussi... alors, au courant, non, mais à qui elle a...
Convaincu,
voilà. Et qui vont voir le travail réalisé par leur enfant. Et du coup, on profite pour se renseigner sur... Donc c'est un bon lien.
Oui, je trouve les enfants,
il faut plus développer ça à l'école.
Et pour finir, nous allons écouter le travail de Baptiste qui traitera de comment la parole des acteurs peut nous raconter le métier de paysagiste.
Donc à travers les paroles recueillies autour de l'eau, j'ai trouvé un écho à notre métier de paysagiste. Mais pour en parler, pour vous parler de ce que nous faisons, je ne vais pas utiliser le blabla de la profession, je vais plutôt vous en parler à travers les mots des autres, ceux qu'on rencontre sur le terrain, ceux qui font avec le territoire au quotidien. Dans cet exercice, le point de départ c'était l'eau pour arroser, l'eau pour se baigner, l'eau comme ressource, comme contrainte, comme plaisir, comme mémoire, comme paysage. Et chacun l'a raconté à sa manière. L'agriculteur nous dit « J'ai ce chiffre, il m'indique une quantité ». Demain, elle ne sera peut-être plus là. L'élu nous dit, moi, j'aimerais défendre une position. Il y a un engagement à prendre, les enjeux deviennent politiques. La technicienne parle d'accessibilité, de tourisme populaire, de gestion, de dimensionnement. Trois regards, trois métiers, trois manières d'entrer dans le sujet. Et pourtant, une même matière, l'eau, est ce qu'on en fait. Mais ces regards ne se croisent pas toujours. Ils avancent chacun sur leur propre ligne, avec leur propre rythme. L'un pense au jour, l'autre à l'année, le dernier à la décennie. Ils n'ont pas forcément le temps de s'écouter. Parfois, ils ne savent même pas ce qu'ils partagent le même territoire. Et c'est là que le paysagiste intervient. Pas comme arbitre, pas comme sachant, mais comme quelqu'un qui entre en croisement. Faire le lien, ça commence par écouter. Écouter les paroles, mais aussi les silences. Ce qui les dit et ce qui ne l'est pas. Et qui essaie d'entendre ce qui résonne entre les discours. Entrer en croisement, ce n'est pas aplanir les différences, ni chercher un consensus à tout prix. C'est faire dialoguer les récits, chercher les points d'appui, les tensions fécondes, les possibles partagés. Notre rôle, c'est de créer les conditions où ces paroles peuvent exister sans se réduire. C'est de proposer une forme, une représentation, une lecture, un projet qui puissent accueillir des visions différentes sans les faire disparaître. Aligner les volontés, ce n'est pas forcer à s'aligner, mais proposer un fil, un chemin de traverse où chacun retrouve une part de son propre langage. Ce que fait le paysagiste, ce n'est pas parler à la place, c'est faire place. Traduire sans trahir, relier sans dominer, et parfois, juste écouter ce que personne n'avait encore entendu. Parce que ces paroles qu'on croyait éloignées, elles ont, en réalité, tant de choses à se dire, et notre travail, c'est de leur donner une chance d'exister ensemble dans le paysage.
Merci Baptiste pour ce très beau texte. Alors nous allons commencer tout de suite une phase un peu de débat collectif. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut mettre... sur le terme de l'eau, la notion de ressource. Vu que nous sommes dans le sujet des parler de l'eau, Est-ce une bonne chose de toujours appliquer le mot ressource à l'eau ?
Ben, je pense que, comme d'habitude, c'est une question de point de vue, hein, une question d'acteur, pour qui on parle et à qui on s'adresse aussi. Mais c'est vrai que la question de ressources est importante, hein. Sur Terre, on peut voir tout comme, fini, et c'est important de se questionner sur qu'est-ce qu'on aura demain, et de ne pas et qu'on peut aussi le voir comme une façon résiliente d'aborder le projet, hein. La question de la ressource, ça permet aussi d'être sobre et d'être pas démesuré dans sa vision des choses, et de respecter la ressource, donc, et aussi tous les autres acteurs qui l'utilisent.
Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais moi j'avoue que j'ai quand même un problème avec ce terme de ressource, parce que ça parle un peu de notre rapport à l'eau dans notre société, un peu de dire, voilà, l'eau, faut qu'on l'exploite, faut qu'on s'en serve, faut qu'on puisse y avoir accès facilement. Et donc c'est plus ça qui me pose problème. En effet, le terme de ressource, ça peut aider un peu à contrôler nos modes de consommation vis-à-vis de l'eau. Mais je pense que ça doit aller plus loin que ça, et ça doit aller jusqu'à changer carrément nos rapports avec l'eau et comment on la considère autre comme une ressource. C'est-à-dire, nous par exemple, on avait vu le technicien du bassin versant de la CIS qui nous disait justement que, dans ce qu'il nous expliquait, c'est que lui, en fait, il en vient à penser le territoire par l'eau, donc à l'échelle du bassin versant. Donc, ça montre qu'en fait, on peut avoir une autre approche qui permet en fait de faire plein de choses et de décaler peut-être un peu le regard. Kate, je ne sais pas si tu as...
L'eau, en termes de ressources, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que c'est quand même important, ce mot, parce qu'il faut qu'on ait conscience que c'est une ressource commune. Il faut qu'on ait conscience aussi que c'est quelque chose qu'on capte, qui est épuisable, et l'eau potable, en tout cas, elle est précieuse et elle peut manquer. Et je pense que ce mot, il est quand même indispensable pour prendre conscience de ça. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'eau n'est pas une ressource. C'est quelque chose de plus global. Mais elle peut être aussi une ressource. C'est plutôt quelque chose avec lequel on... Un élément avec lequel on peut avoir une relation. Nous, on a vu un paysagiste qui avait une expérience assez intime avec l'eau. Il était beaucoup dans les clubs nautiques ou avait un rapport depuis l'enfance avec l'eau. Et il nous parlait de l'eau comme une énergie. Il y a un truc qui se passe, il y a un mouvement, il y a quelque chose d'intangible en fait qui se passe avec l'eau. Il y a une vraie relation avec l'eau par rapport à chacun. Et c'est aussi important de se connecter à cette relation, à cet élément.
Ok, ben donc est-ce que en fait on pourrait pas le voir en fait, essayer de trouver un autre mot qui pourrait faire le pont. Est-ce que le terme ressource en fait est intéressant, mais est-ce qu'il n'est pas obsolète à notre époque et dans les nouveaux enjeux? Est-ce que ce ne serait pas une question à redéfinir en fait, comment on pourrait essayer de voir un mot qui serait plus adapté dans sa relation au paysage en fait, et aux nouveaux enjeux? Peut-être qu'il dépend trop d'une ère qui est finie. C'est vrai qu'on pose souvent la question dans la question de l'aménagement sur l'obsolescence en fait, des termes et du métier. Et surtout dans quoi on s'en sert, quoi. L'étalement urbain par exemple, on repose beaucoup sur des notions qui datent de la Seconde Guerre mondiale et sur l'étalement urbain, et c'est en fait plus des questions qui existent aujourd'hui. Est-ce que ce serait pas la même chose avec l'eau en fait? Est-ce qu'il faudrait pas se re-questionner là-dessus?
Alors là tout de suite, merci déjà pour cet échange autour de cette première question. Là, on accueille en ce moment Nathalie qui est aussi une étudiante, qui vient nous rejoindre dans le débat. Nathalie, est-ce que tu as une question, un retour déjà à faire sur cette expérience, peut-être lors des entretiens que tu as fait, cette semaine? Quelque chose qui t'a un peu frappé, surpris?
Oui, bien sûr. Déjà, c'est vrai que c'est intéressant de voir la diversité des acteurs
qui travaillent avec l'eau tous les jours ou pour qui c'est un élément important. Ce qui est aussi assez fou, c'est de voir que finalement, selon les personnes, l'eau s'est vue soit comme une ressource, soit comme un enjeu, soit comme un élément physique comme un autre, ou alors c'est un aspect plus mystique, spirituel. Enfin, chacun a une façon de la considérer qui est liée à son expérience, à son vécu, à sa profession et puis à tout son historique. Donc finalement, bon, après c'est valable pour beaucoup d'autres aspects aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette diversité et qui fait que du coup après chacun a une approche très, très différente, plus ou moins sensible, plus ou moins technique. Et que parfois les deux se mélangent, c'est ce qu'on a pu voir nous avec mon groupe dans certains entretiens où des personnes qui ont un métier très technique, qui en parlent au jour le jour d'une façon voilà, avec des mots assez, assez carrés. Alors que d'un point de vue plus personnel, ils ont peut-être une vision plus sensible en fait, de l'eau et ils la considèrent plutôt avec des mots. On a entendu par exemple des mots comme magique pour quelqu'un qui travaille à l'agglomération par exemple, donc c'est assez, assez surprenant.
À nous, tu vois, c'est marrant parce que en fait, il y avait une question qu'on posait toujours, c'était est-ce que vous avez un point de vue plus personnel sur l'eau à nous communiquer ? Et en fait, ils ont tous les quatre, tous ceux qu'on a rencontrés, ne savaient pas quoi dire. Soit ils savaient pas quoi dire en mode bah je sais pas, j'y ai jamais pensé, voilà. Ou alors ils étaient en mode moi, l'eau elle est tellement présente dans mon métier qu'en fait j'y pense que de manière technique quoi.
Et en fait là ce que vous dites ça me fait penser, et c'est une question comme ça, est-ce que vous pensez qu'il faut créer un récit commun autour de l'eau entre les différents acteurs, entre les différentes personnes, est-ce qu'il faut un récit commun ou garder cette singularité un peu entre les personnes et leur profession?
Moi je pense que en fait il est important que chacun ait sa singularité de toute façon. C'est ça qui apporte une certaine richesse dans les échanges, dans la façon dont on voit les choses, dans la façon dont on construit des projets. Mais peut-être que pour, dans le contexte actuel ou de raréfaction de l'eau, de problèmes de pollution, c'est ce qu'on a vu pas mal avec nos interlocuteurs, qui se joue sur le temps long, parce que le temps de l'eau et le temps de nos actions est très différent. Et c'est probablement bien d'avoir un récit commun qui à construire pour que tout le monde aille dans le même sens et ait envie de s'investir dans des actions et ait envie d'intervenir. C'est-à-dire que le récit commun dans le sens où on est tous bien au fait de ces problèmes de changement climatique, de ces problèmes de pollution, de ces problèmes de partage, enjeu de partage de l'eau, et c'est important que tout le monde ait quand même aussi un peu les mêmes conscience de ces mêmes enjeux en fait, qu'ils les partagent pour pouvoir avancer ensemble.
Merci Nathalie. Alors je sais pas si vous avez des remarques, une question autre, sinon nous allons finir ce débat finalement. Ça ne dépend que de vous. Oui, Nathalie.
À la limite, pour clôturer peut-être prochainement, on peut peut-être juste partager le mot qui nous a le plus marqué ou la phrase qui nous a le plus marqué dans les différents échanges qu'on a eus pour comparer un petit peu ou voir la diversité de ce qui peut marquer tout un chacun.
Je me permets de commencer. On a rencontré Bruno Marmiroli, qui est directeur de la mission Centre-Val de Loire, qui était pro-baignade, et qui nous a dit on peut faire un virage anthologique de la baignade finalement. Et j'ai trouvé ça super drôle, quoi. J'ai adoré.
Et toi, Nino?
Moi, c'est moins drôle. Ça va être le mot système qui a été dit par. Notamment c'était Grégoire Bruzulier, le directeur du CAUE, mais ça a été aussi dit par le technicien du bassin versant de la CIS, et aussi il me semble que l'artiste plasticienne qu'on a rencontré parlait de système, mais en fait, chacun a sa définition du système. Ça peut être système au niveau des rencontres, système dans l'eau, c'est-à-dire le cycle de l'eau avec le sol, etc. Donc je vais partir sur ce mot-là.
Ok. Et ben moi, je vais revenir sur une phrase que j'ai partagée dans la partie sonore que j'ai proposée un peu plus tôt, qui est que l'eau paye l'eau. Et c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué parce qu'il y avait vraiment une notion très brutale, très pragmatique autour de la ressource en eau, qui était qu'en fait, il faut que les gens payent une taxe dessus pour qu'ensuite elle puisse être distribuée à tous. Et que c'est assez fou en fait de se dire que même pour cet élément qui est l'élément vital de base, on en revient toujours du fait de notre fonctionnement en société à ce qu'il y ait un aspect monétaire derrière. Et c'est vrai que du coup, ça complexifie tout et ça irrigue un petit peu, avec un excellent jeu de mots, vous le noterez.
Subtil.
Tout ce sujet. Voilà.
Très bien. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, on va peut-être clore ce débat collectif.
Très bien.
Merci à vous.
Je voulais juste conclure cette émission en remerciant très chaleureusement le Pays des Châteaux, notamment son directeur Xavier Laurière, avec qui nous travaillons depuis maintenant une dizaine d'années sur ces ateliers que nous menons auprès du territoire et auprès surtout de toutes les personnes qui y travaillent. Ça me permet de remercier toutes les personnes que les étudiants ont rencontrées. Certains sont maraîchers, d'autres sont techniciens, d'autres sont artistes, d'autres sont techniciens de rivière, élus, et ce sont autant de points de vue importants et de rencontres très généreuses. Et enfin, je remercie évidemment très chaleureusement les étudiants qui ont participé à cette semaine, notamment les quelques-uns qui sont avec nous sur ce comice agricole et qui ont réalisé cette émission de radio. Je tiens à rappeler aussi que l'ensemble de ce travail est disponible sur le site internet de l'École de la nature et du paysage de Blois. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.
J'ai nagé, j'ai volé. Toi, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur.